permis d'être plus rapide que Mike et Becky par le train. Mais d'habitude, c'est un voyage qui prend 8 à 10 heures. Et hier, il y avait tellement de trafic que ça nous a pris 13 heures, dans la chaleur. Et en fait, nous allons voir aujourd'hui dans le texte que vous vous souvenez peut-être que Paul comparait la vie du chrétien à un combat, ou la vie du chrétien à une course. Et c'est vrai que quelque part, la vie du chrétien, ça se passe sur la route de la vie. Et nous allons voir qu'il y a des obstacles. Hier, nous avons rencontré plein d'obstacles sur la route, plein de dangers. Il faisait chaud. Puis de temps en temps, quand on essayait de doubler un poids lourd, il y avait une Mercedes ou une BMW qui arrivait à 180 à l'heure avec les appels de phare. Et on se dit, ça y est, c'est fini là. Il nous fait signe qu'il ne va pas pouvoir s'arrêter. Et puis de temps en temps, on arrivait, on ne roule pas vite, 110, 120 des fois, en descente. On était avec les 4 enfants. Enfin, les 4 à 4 dans la 205. On essaye de rouler tranquille et puis d'un seul coup on voit une file de caravanes. Elles vont encore moins vite. Alors là c'est on peut plus rouler tranquillement, il faut se préparer à faire des manœuvres, à dépasser, à attendre que les Mercedes soient passées, prendre de l'élan. Et puis il y a aussi des fois les petites voitures avec le toit chargé, avec le sofa, le frigidaire et... Et c'est vrai que quand on est en route, c'est pas facile. Il y a des dangers. Et Paul va nous mettre en garde ce matin contre les dangers qui nous guettent sur notre route avec le Seigneur. J'aimerais que nous tournions à 1 Corinthiens 10. Et nous allons lire les versets 10 à 12. C'est page 194 dans la Bible à la colombe, dans le Nouveau Testament. Et Paul s'adresse à ses frères et il s'adresse à nous par-delà les siècles en disant « Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. » Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. » Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Amen. Paul nous rappelle tous les privilèges que Dieu a accordés à son peuple lorsqu'il part au verset 1 de nos pères, il fait allusion aux Hébreux dont nous lisons le récit des aventures dans l'Ancien Testament. Et une chose qu'il nous dit qui est remarquable, c'est que ce peuple de Dieu, il y a une répétition, vous le voyez, du mot « tous ». Ils ont tous été sous la nuée, ils ont tous passé au travers de la mer, ils ont tous été baptisés en Moïse, ils ont tous mangé le même aliment, ils ont tous bu le même breuvage. Et ça nous rappelle que Dieu ne fait pas de différence, de distinction entre les personnes. Du plus petit au plus grand, du plus faible au plus fort, du plus jeune au plus vieux, Dieu veut être fidèle avec son peuple. Et si nous sommes chrétiens, si nous avons fait cette démarche par la foi de le recevoir dans notre cœur, nous sommes de cette famille de la foi, des Hébreux. Il est dit dans la parole que nous sommes chrétiens et que Dieu ne fait pas de différence entre nous. Il nous aime tous autant les uns que les autres. Ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles, ceux qui trébuchent souvent, ceux qui sont vieux dans la foi, ceux qui sont jeunes, ceux qui ont accepté le Seigneur il y a quelques semaines, ceux qui l'ont connu depuis 50 ans, ceux qui ont une grande influence, ceux qui sont petits. C'était intéressant, à la conférence, il y avait des pasteurs qui ont été utilisés depuis longtemps et de façon puissante par le Seigneur. Et quelque part, on se dit, mais moi, je ne peux pas être utilisé comme ce pasteur qui a une église de 12 000 personnes, qui a une telle influence dans sa région que il est accepté par les autorités, que la police lui demande quel est son programme anti-drogue, parce qu ils voient qu'ils n'ont plus besoin des programmes anti-drogue typiques dans les États américains. Il leur dit, on n'a pas de programme anti-drogue. Notre programme anti-drogue, c'est une personne, c'est Jésus. Et on voit comment une personne pleine du Saint-Esprit, pleine de Jésus, peut avoir un impact qui dépasse l'Église, qui dépasse... Et on peut imaginer ce que Dieu pourrait faire. Mais Dieu nous aime tous autant. Dieu peut utiliser chaque personne qui est prête à lui dire, Seigneur, je suis là, je veux que tu m'utilises. Aide-moi, c'est toi qui vas être glorifié. Et nous aussi, nous devons dire... Nous, le Seigneur peut tous nous utiliser. Pas parce qu'il y a un pasteur ou le fils du pasteur. Il veut tous nous aimer. Et pour nous, l'aimer en retour, c'est le servir. C'est nous fixer sur lui. Et il nous a accordé des privilèges, comme il avait accordé des privilèges à son peuple, accordé des privilèges aux Hébreux. Il nous dit... Nos pères ont tous été sous la nuée. Au départ, il nous dit, je veux pas que vous l'ignoriez. C'est en général parce qu'on a oublié ça. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut vous rappeler les bénédictions qu'il a mis sur vous. Ils étaient tous sous la nuée. Vous souvenez, on a étudié le livre des Nombres. On a vu que le Seigneur les guidait par ce nuage qui se transformait en colonne de feu la nuit pour les guider, mais aussi qui pouvait les protéger pendant la journée du soleil intense du Moyen-Orient. Et en fait, cette nuée, c'était la présence de Dieu parmi eux. Et Dieu est présent parmi nous. Son esprit est là, Jésus nous aime, il est ressuscité, il est là au milieu de nous. Il veut nous protéger, il veut nous guider. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ça rappelle la libération du peuple d'Israël, lorsque Moïse les a guidés pour traverser la mer Rouge. Ça, c'est dans Exode 14 qu'on peut lire la description, cette histoire que vous connaissez tous. Dieu avait ouvert la mer pour que son peuple puisse passer. Et pour nous, il a ouvert notre cœur. Il a ouvert les cieux. Il est venu mourir pour nous. Il veut que je réalise que j'ai besoin de lui. Il veut délivrer mon cœur du péché, non seulement du péché, mais de la condamnation que le diable veut rappeler à nos cœurs, de ce sentiment de culpabilité qui fait qu'on se dit, oui, c'est vrai, le Seigneur voudrait m'utiliser, mais j'ai tellement de péchés dans ma vie, comment est-ce qu'il peut m'utiliser? Et puis, il est dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ça veut dire qu'ils avaient quelqu'un pour les diriger qui était formidable. Ils ont été identifiés, au lieu de baptiser, on pourrait dire. Ils ont été identifiés avec Moïse. À l'époque, c'était lui qui était leur médiateur. C'est lui qui était un peu l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. C'est lui qui allait chercher les 10 commandements. C'est lui qui les ramenait au peuple. C'est lui qui allait prier. Et maintenant, nous avons un autre Moïse. Dans le Deutéronome, il est dit que la prophétie que Dieu allait susciter un autre prophète. Ce prophète, c'est Jésus, qui est venu pour... Nous sommes baptisés en lui. Si nous croyons en lui, nous sommes comme identifiés avec lui. Le Père nous voit à travers son Fils. Et le livre aux Hébreux, la lettre aux Hébreux nous dit que Christ est bien supérieur à Moïse. On se dit, ça aurait été chouette de vivre quand même à cette époque. Avec ce nuage, ce camp, tout ce monde, les ennemis qui mis en déroute par, la, par les, l'eau de la mer Rouge qui se refermait sur eux. Puis avoir Moïse, quel bel homme, puissant, une belle barbe, un grand bâton, belle robe. Mais la parole nous assure que Jésus-Christ a été jugé digne d'une gloire bien supérieure à celle de Moïse. Si vous voulez, on peut lire Hébreux 3, 1, 16, c'est pas la peine de vous y tourner, mais 3, le début du chapitre 3 de la lettre aux Hébreux. C'est pourquoi, frères saints qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle pour celui qu'il avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui l'a construit, qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. On ne devrait pas envier le peuple juif de l'Ancien Testament. Nous avons autant de bénédictions, sinon plus, parce que nous avons toute cette connaissance, toute cette révélation du Nouveau Testament qui nous explique ce que représentait Moïse et qu'il n'était qu'une pâle représentation de celui qui a une gloire bien supérieure, Jésus-Christ. Ils avaient une nourriture spirituelle, surnaturelle. Il est dit, ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Vous vous souvenez de cette manne qui tombait du ciel. Le psaume 78 le résume ainsi. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Chacun eut à manger du pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Ça c'est le psaume 78-24 si vous voulez noter. Ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Mana, en hébreu, mana, on pourrait traduire ça par c'est quoi? Comme je pense Abigail, sa question, elle montre tous les objets autour d'elle et elle aime bien dire c'est quoi? Eh bien les hébreux qui voyaient cette nourriture céleste tomber sur eux, ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mana. Avant on disait, mais je me date, là, il y avait l'expression quesaco. Je ne sais pas si c'est de l'espagnol ou de l'argot. Mais on se dit, ah, ça c'est formidable, ils n'avaient pas de soucis à se faire. La nourriture leur tombait tous les jours. On sait, on le verra plus loin, qu'ils se sont lassés. Il trouvait que le goût de la manne, il était, après avoir essayé toutes les recettes, c'était toujours de la manne. Et pourtant, c'était une nourriture qui leur assurait l'énergie, qui leur assurait tout ce dont leur corps avait besoin. Ça, c'était l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, Jean 6 nous parle de cela. C'est Jésus qui dit, c'est que ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Donc Jésus nous dit que nous pouvons avoir la même nourriture spirituelle, une bien meilleure nourriture spirituelle, parce que nous le verrons encore plus loin, ceux qui avaient mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais Jésus nous promet que si nous participons de sa nature, si nous avons cette relation intime avec lui, qui est cette relation où nous sommes en communion avec lui, la communion, la Sainte Cène, c'est de partager la même nourriture ensemble, et pour être avec, les uns ensemble avec les autres, et avec Dieu lui-même. Et Jésus se définit comme le pain du ciel, que celui qui en mange ne meurt pas. Celui qui en mange ne meurt pas. De la même façon, dans le désert, ils avaient une boisson spirituelle. Il faisait chaud dans le désert. Hier après-midi, je crois que je lisais ces passages encore pour me remémorer ce passage. Et quand il fait bien chaud, que l'eau que l'on a est de l'eau tiède, on s'arrête dans les endroits, il y a tellement de monde qui s'arrête pour acheter de l'eau, et l'eau qu'on peut trouver, c'est de l'eau en bouteille de plastique encore tiède, parce que les frigos n'arrivent plus à la réfrigérer tellement il y a de débit. Alors, on sait ce que c'est que la soif physique. C'est un besoin. On dit qu'on peut aller, on peut se priver de nourriture. On a vu l'exemple de Jésus pendant 40 jours, mais si on se prive d'eau pendant quelques jours seulement, on ne peut pas vivre. Et de la même façon, cette nourriture, ce breuvage spirituel, c'était qu'une préfiguration, ce que la Bible appelle un type, un exemple, on verra le mot plus loin, d'une boisson encore bien plus importante, une boisson une fois que l'on en a reçu le bénéfice, on n'a même plus soif. Jésus a dit dans Jean 4, 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnera deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et vous vous souvenez de la femme qui était venue chercher de l'eau au puits à midi, parce que c'était une heure où les autres femmes qui la rejetaient parce que c'était une femme immorale. Elle était venue, elle était très intéressée parce qu'elle se disait physiquement, ça serait bien si j'avais plus à faire cette corvée d'eau. Mais Jésus s'est révélé petit à petit à elle pour lui expliquer non, que si nous venons à lui, si nous ouvrons notre cœur de pécheur en lui disant « Pardonne-moi Jésus, je veux te recevoir, je veux que tu transformes ma vie, je veux que tu lui donnes un sens. » Alors il nous dit que nous n'aurons plus jamais soif d'autre chose. Nous serons plus comme le monde qui court d'une mode à une autre. D'un nouvel type de voiture à un nouveau type de voiture. De nouvelles musiques les médias, la publicité sont toujours en train de nous montrer quelque chose de nouveau. Remarquez le mot nouveau, c'est toujours nouveau. Et en fait, ce qui change, c'est simplement l'emballage. Et on ajoute un peu de poudre de perlimpinpin et ça va laver la vaisselle ou le linge d'une façon... Vous connaissez le sketch de comment il s'appelle déjà, Coluche, hein, que laver plus blanc que le blanc, il ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est vrai que nous aussi, on devrait dire, attendez, Jésus dit... Vous n'avez pas besoin d'être lavé plus blanc que blanc. Une fois que vous m'avez reçu, vous êtes pur. Et votre vie prend un sens merveilleux. Pour l'éternité, vous êtes avec Dieu. Et il est dit que le rocher spirituel qui les suivait, c'était le Christ. Alors c'était pas un gros rocher. Vous savez, dans Astérix, on voit des fois les Romains qui se cachent en buissons et on voit les buissons qui bougent. Là, il ne s'agissait pas d'un rocher qui bougeait, c'était un rocher spirituel qui les suivait. Christ était déjà présent. Christ, il n'est pas né à Noël à Bethléem, il s'est incarné à Noël à Bethléem. Mais il était déjà avec l'humanité. Ce rocher, c'était le Christ. Et nous nous souvenons aussi de cet épisode justement où le peuple avait soif et Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher et l'eau jaillira. Il avait obéi et l'eau avait jailli. Et puis nous avons étudié dans je crois que c'était le chapitre 21 du livre des Nombres, cet épisode qu'on a un peu du mal à comprendre des fois, nombre 20, où le peuple continuait de se plaindre et ils avaient soif et ils disaient à Moïse, pourquoi tu nous as emmenés ici pour périr ? Et un peu dans un geste de colère, parce que il ne voulait plus d'eux, il a frappé deux fois le rocher. Et on comprend dans le texte qu'en fait c'était quelque chose de très grave, puisque finalement Dieu a dit à Moïse qu'il ne pourrait pas entrer en terre promise. C'est le but de sa longue marche avec ce peuple rebelle. Nous avons vu comment Moïse avait eu à cœur de d'abord libérer son peuple par ses propres forces. Dieu l'avait anéanti pendant 40 ans comme un berger et qu'il avait compris que il était devenu un autre homme. Il ne marchait plus dans la fierté, il ne marchait plus dans sa propre chair, dans sa propre puissance. Il avait fallu que Dieu lui dise, délivre mon peuple, je t'utiliserai pour qu'il obéisse. Et on a du mal à comprendre pourquoi Dieu pourrait l'avoir puni si sévèrement. Il lui a dit, ce ne sera pas toi qui les amènera en terre promise. Et quelque part, il s'est, comme disait Paul, il s'est disqualifié. Et bien sûr, on explique cela parfois en disant que la première fois que le rocher avait été frappé, c'était la première fois et la seule fois nécessaire que Jésus-Christ a été sacrifié pour nos péchés. Il n'a pas besoin d'être sacrifié chaque dimanche. Il est mort une fois pour toutes, nous dit la lettre aux Hébreux. Le sacrifice a été parfait, il a payé complètement notre dette de pécheur envers un Dieu complètement saint. Et je crois, j'avais évoqué la raison pour laquelle Dieu l'avait puni si sévèrement. C'était peut-être plutôt, non pas parce qu'il avait en quelque sorte ruiné la comparaison, la métaphore que Dieu voulait utiliser, ça paraîtrait un peu vain de la part de Dieu de dire, oh Moïse, j'allais utiliser cet exemple pour vraiment une belle image et tu l'as gâché, alors c'est fini. Certains commentateurs disent cela, je préfère la version qui disent qu'en fait, le problème de Moïse, c'est que dans sa colère, dans son énervement, il avait mal représenté Dieu dans son amour, dans la grâce de Dieu. Et cette semaine, à la conférence, le Seigneur m'a parlé, et je crois qu'il a parlé à d'autres personnes dans la famille. Est-ce que je représente mal Dieu ? Est-ce que nous tous, est-ce que chacun de nous, est-ce que nous sommes de bons représentants de Dieu ? Est-ce que lorsque les gens autour de nous voient vivre, nous voient réagir face aux épreuves, face à leur situation, est-ce que nous agissons comme Jésus aurait agi ? Ou est-ce que je réagis comme les autres dans la chair, dans la colère, dans l'impatience, dans la non-disponibilité, dans l'égoïsme? Et ça, je crois que cela fait partie de nos responsabilités en tant que chrétiens, c'est de demander à Dieu de nous aider à être de bons et de vrais témoins. Il y a autour de nous toute une population qui périt. Et plaise à Dieu que nous ne soyons pas ceux qui auront été des obstacles entre eux et la grâce et le salut que Dieu veut leur offrir. Donc je crois que ça c'est quelque chose qui est personnel. Et même en tant qu'assemblée, est-ce que nous sommes là pour les autres ? Est-ce que nous sommes... Et je ne cherche pas à nous culpabiliser, mais plutôt à nous exhorter à payer le coût que la vie du chrétien doit représenter, à nous aider, à, et cela se fait dans la joie, c'est pas nécessairement quelque chose qui est lourd, parce que le Seigneur a dit mon fardeau est léger. Mais souvent c'est des fardeaux que nous imposons, nous réagissons dans la chair, nous vivons dans comme les autres. Et donc Moïse avait été durement puni pour avoir mal représenté Dieu. Dieu ne les avait pas rejetés. Lui, Moïse, si ça avait tenu qu'à lui, il les aurait. Bon, c'est fini, j'en ai marre, j'en peux plus avec vous. Dieu merci, notre Dieu n'est pas comme ça. Il est plein de patience, de tendresse. Amen. Verset 5, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Ça, c'est un peu une façon gentille de parler d'une extermination pratique. En quelque sorte, ils sont tous morts. Vous vous souvenez, on avait estimé en étudiant le livre des Nombres qu'il devait y avoir près d'un million et demi d'adultes. Et on avait rappelé que combien étaient finalement entrés en terre promise. Vous vous souvenez combien étaient entrés en terre promise? Deux seulement. Deux sur un million et demi. On pourrait dire que beaucoup avaient déplu. La plupart d'entre eux, c'est une façon de parler, on pourrait dire tous, à 99,99999%, j'ai pas fait le calcul, mais je vous laisse le faire. Autrement dit, Dieu veut nous mettre en garde que tous les privilèges qu'il nous donne, c'est jamais une garantie de victoire spirituelle, une garantie d'intégrité. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que Dieu va nous rejeter, parce qu'il nous promet que si nous venons à lui de tout notre cœur, nous sommes nés de nouveau. Et le peuple hébreu était son peuple, mais ils se sont disqualifiés par leur attitude. Et les versets suivants nous montrent des leçons pour les Corinthiens, et bien sûr des leçons pour nous à Nice en l'an 2000. Vous vous souvenez peut-être, lorsqu'on a étudié le livre des Nombres, on a dit, pourquoi est-ce qu'on étudie le livre des Nombres? Parce que Paul a dit que toutes ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et que ces choses qui se sont passées il y a des milliers d'années, elles nous parlent aujourd'hui. Et elles parlaient déjà à l'époque avec les Corinthiens. Ce sont des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Désir n'est pas nécessairement mauvais, tout dépend de la chose que l'on désire. Le mot qui est utilisé, ça peut être un désir fort pour de bonnes choses, comme un désir fort pour de mauvaises choses. Jésus disait, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, dans Luc. Et vous vous souvenez que eux, ils en avaient assez de la manne, cette nourriture céleste qui était parfaite pour leur subsistance, mais ils se souvenaient des choses qui leur manquaient. Ils se souvenaient des poissons qu'ils mangeaient gratuitement en Égypte, sans doute des poissons pêchés dans le delta du Nil ou dans le Nil lui-même, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et ils disaient, maintenant notre gosier est desséché, nous ne voyons que la manne, on en a marre de la manne. Et nous aussi, on peut se dire des fois, c'est vrai que ma vie en tant que chrétien, ça manque un peu d'épices. Je me rappelle, avant d'être chrétien, qu'est-ce que j'allais m'amuser le samedi soir? C'est vrai que on oublie les moments de tristesse, on oublie le sentiment de vide, on oublie le sentiment de culpabilité, mais l'ennemi est là pour dire, oh oui, c'est vrai, hein, c'est aller écouter des sermons le dimanche matin. Pourquoi tu ne fais pas la grâce matinée? Ou tu vas faire une belle balade dans la nature. Et toutes ces choses peuvent être bonnes, mais encore une fois, c'est est-ce que ce sont des désirs qui vont prendre précédence sur notre relation personnelle avec Dieu? Il leur disait de ne soyez pas idolâtres. Il nous dit ne soyez pas idolâtres. Et on se dit, mais nous, on n'est pas idolâtres. Les idoles, c'est pour les pays du tiers-monde, là où ils font encore des petites statues ou des danses autour de représentations de Dieu. On sait que c'est pas vrai tout ça. Mais en fait, on l'a dit souvent ici, c'est que une idole, c'est tout ce qui prend la place qui appartient à Dieu. Et ça peut être des bonnes choses en apparence. Ma famille peut être une idole. Si le Seigneur m'appelle à partir quelque part en une contrée lointaine, mais je dis non, je veux pas incommoder mes enfants. Je veux qu'ils reçoivent une bonne éducation. On va rester en France. La famille est devenue une idole, si le Seigneur nous a vraiment appelés. Notre travail peut devenir une idole. Notre conscience professionnelle peut devenir une idole. Est-ce que nous sommes plus préoccupés d'avoir des bons rapports de notre supérieur direct qui dira « Ah, Pierre, ça c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Si on a du travail le soir, le dimanche matin, il est là. » Et je suis content. Mon travail peut devenir une idole s'il se met entre moi et ma relation avec Dieu. Vous vous souvenez de Balak et de Balaam? Balak, le roi qui avait peur que les Juifs aient le dessus sur lui, l'envahissent, l'exterminent. Il avait fait appel à ce personnage un peu bizarre, Balaam, qui pouvait prononcer des paroles de bénédiction, de malédiction sur les gens qui semblaient s'accomplir. Mais lui était incapable de maudire le peuple de Dieu. Il a bien essayé. Et nous avons un ennemi dans les cieux, qui est le prince de ce monde, qui essaye de nous maudire. Nous devons avoir confiance qu'il ne peut pas aller contre Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous a entre ses mains, il ne nous laissera pas tomber. Mais nous pouvons nous éloigner de Dieu. Comme là, eux, ils s'étaient livrés à l'inconduite. Vous vous souvenez, il avait dit, bon, ben, je ne peux pas prononcer de malédiction, mais j'ai une idée. Vous allez envoyer vos filles flirter avec les jeunes gens juifs et les entraînons dans l'idolâtrie. Et à ce moment-là, Dieu va se mettre en colère. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu ne peut pas aller contre des choses qui sont contre sa nature. Et cela doit être un avertissement solennel aussi pour nous. Dieu peut tout pardonner. Mais s'il nous voit nous contenter et persister dans le péché, il peut nous juger aussi, il va nous juger. Il ne peut pas continuer à bénir ce qui est contre sa nature. Il nous pardonne, il nous relève lorsque nous tombons, mais si nous profitons de sa grâce pour continuer à pécher en disant « Son travail c'est de nous pardonner, il n'y a pas à s'en faire », alors à ce moment-là nous nous exposons à un grave jugement du Seigneur. Là, Paul nous dit qu'il en est tombé 23 000 en un seul jour. Vous vous souvenez de cet épisode où sans aucun égard pour Dieu, les jeunes juifs venaient amener leur compagne païenne pour se livrer à la prostitution, pour se livrer à des relations sexuelles devant l'entrée du tabernacle. Il avait fallu la colère de Phinéas, qui était venu avec un pieu transpercer ce couple qui péchait ouvertement de façon éhontée devant le Seigneur en le ridiculisant presque sa sainteté. Il en était tombé 23 000. Le livre des Nombres nous dit qu'il en est tombé 24 000. Ici, il est question de 23 000 en un jour. Les ennemis de la Bible aiment bien prendre ces deux nombres et disent, voyez, là encore, il y a bien un problème, on ne peut pas se fier à la Bible. La façon la plus simple d'expliquer, c'est que Paul dit qu'il en est tombé 23 000 en un jour, et peut-être il en est tombé encore un millier, les chefs qui ont été jugés un peu plus tard. Et puis il nous dit, ne tentez pas le Seigneur, verset 9. Vous vous souvenez de cet épisode où où les Israélites en avaient marre de, là aussi, de suivre Moïse et avaient essayé de se rebeller contre leur autorité, son autorité. Élisée, pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte pour mourir dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Un mot qui me fait trembler, c'est ce mot de pain méprisable. Est-ce que quelquefois, les choses que Dieu me donne, je les méprise? Ça peut être des épreuves. C'est vrai que c'est pas facile, mais souvent lorsque nous méprisons les épreuves, lorsque nous méprisons nos conditions, lorsque nous nous plaignons, lorsque nous murmurons, Dieu n'est pas fou, et c'est bien que c'est lui qui est à l'origine de toutes ces circonstances, de toutes nos situations, il les permet, et lorsque nous méprisons ces situations, nous méprisons Dieu. Alors l'Éternel doit envoyer contre le peuple les serpents brûlants. Heureusement, nous savons aussi que Moïse a eu une solution, que le serpent qui a été montré sur le poteau, ce serpent d'airain, l'airain ça parle ou de cuivre, d'alliage de cuivre et d'étain, ça parle du jugement. Et qu'en fait, pour être sauvé de ces morsures de serpent, il suffisait de regarder, de contempler ce serpent qui était suspendu à ce poteau. Et Jésus a expliqué qu'en fait, c'était là aussi un exemple, un type, un modèle, une préfiguration du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, mourant sur la croix. Et que tous ces serpents qui nous ont piqués, qui nous ont mordus, tous ces péchés, cette nature de pécheur, Dieu veut nous guérir simplement en contemplant son Fils. En disant, oui, c'est vrai. C'est pas en faisant des bonnes actions, c'est pas en changeant notre vie par nos propres forces, c'est en mettant d'abord notre foi en son sacrifice. C'était totalement illogique de penser qu'on pouvait être guéri d'une morsure de serpent en regardant un objet. Et de la même façon, les gens aujourd'hui nous disent, mais c'est totalement illogique de croire que, parce que vous croyez en Jésus, à cette histoire de mourir sur la croix, que vous pouvez être guéri spirituellement, que vous pouvez avoir la vie éternelle. Et pourtant, c'est la vérité, la même façon. Ils murmurèrent, ils rouspétèrent, et aussi, ils ont été punis. Se plaindre, encore une fois, c'est dire à Dieu qu'on n'aime pas la façon dont il prend soin de nous. Est-ce qu'il y en a qui ont l'habitude de se plaindre? Donnons ça à Dieu, donnons-lui de... Demandons pardon, c'est un péché. Et puis finalement, Paul termine en disant, cela leur est arrivé à titre d'exemple. C'est encore une fois le mot type en grec, tupos. Un type, une préfiguration, quelque chose pour nous faire comprendre, pour qu'on... Ah, ça y est, ça rentre. Ça a été écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Si c'était déjà arrivé pour les Corinthiens il y a près de 2000 ans, à plus forte raison, nous, la fin des siècles est encore plus proche. Et puis il y a cette dernière phrase que nous allons regarder, il y a cet autre verset que nous étudierons plus en détail la semaine prochaine, le verset 13, mais verset 12, « Ainsi donc, celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. » Et ça, je crois que chacun de nous, le Seigneur veut nous mettre en garde. Peut-être, je pense, parce que je suis pasteur, alors, bon ben, j'ai une relation privilégiée avec le Seigneur, il dit non, non, non. Peut-être parce qu'on connaît le Seigneur depuis longtemps, on se dit, oh, moi, depuis le temps que je le connais. Et il nous dit, le plus dangereux, c'est lorsqu'on se croit fort. Vous vous souvenez de la fameuse ligne Maginot des Français? ces fortifications qu'ils avaient édifiées dans la région des Ardennes, hein, pensant que c'était la route qu'allait prendre l'ennemi, et que là, ils étaient tranquilles. Ils n'avaient plus de danger, ils pouvaient faire la sieste derrière la ligne Maginot. Et on sait que l'histoire a montré que il suffisait de contourner, ça prenait que quelques heures ou quelques jours. Et l'ennemi est là aussi, il sait que des fois nos forces, on se dit, oh, moi j'ai l'habitude, je lis ma Bible tous les jours, je suis fort. Ou je prie, j'ai pas de problème pour prier, je prie tous les jours, donc je suis fort. Il dit, attention, attention. Encore une fois, ne comptons pas sur nos propres forces. Soyons humbles. Reconnaissons que notre vieille nature, elle est toute puissante. Pas toute puissante, mais elle est très puissante. Dieu merci, elle n'est pas toute puissante. Il est tout puissant. Mais on ne peut aider que celui qui appelle à l'aide. Si vous voyez quelqu'un qui nage, qui part nager et qu'il se noie sans faire un geste, personne ne va aller à son secours, on va dire, tiens, il doit être en train de plonger pour chercher des coquillages. Que celui qui pense être debout, celui qui se croit fort, prenne garde de tomber. Amen. Prions. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole, pour la profondeur de sa sagesse. Elle est ta sagesse, Seigneur, et nous te demandons de nous aider à la comprendre toujours plus. Seigneur, c'est vrai que nous oublions si facilement, Seigneur. Et souvent, les circonstances nous aident encore plus à oublier ces leçons, Seigneur, toutes ces choses que nous savons au fond de nos cœurs, que nous avons déjà entendues. Seigneur, nous ne prenons pas la résolution de les mettre en pratique parce que nous savons que nos résolutions ne tiennent pas. Mais Seigneur, nous nous en remettons à ta grâce, à ton amour pour nous fortifier, Seigneur, pour nous rappeler ces choses, pour nous aider à tenir debout, Seigneur, à ne pas être disqualifiés, à ne pas perdre la course. Merci de nous rappeler tous ces obstacles sur la route de la vie, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies. Apprends-nous à être humbles, à ne pas nous vanter de quelques privilèges, Seigneur, car ces privilèges que tu nous as donnés, ils impliquent une responsabilité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu as fait à la croix, tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu vas faire et continuer de faire, Seigneur, par cette petite assemblée, Seigneur, par les personnes que tu ajoutes, comme tu l'entends. Seigneur, donne-nous aussi de ne pas mal te représenter, Seigneur. Parce que lorsque nous trébuchons, lorsque nous nous livrons au péché, à l'inconduite, au murmure, que nous rouspétons comme les gens qui nous entourent, alors Seigneur, nous ne faisons pas un vrai témoignage de toi. Les gens se disent, bof, ouais, ils vont à l'église le dimanche, mais le reste de la vie, le reste de la semaine, je vois aucune différence. C'est des hypocrites comme tous ces gens religieux. Seigneur, ne permets pas que cela soit dit de nous, Seigneur. Ne me permets pas que cela soit vrai de nous, Seigneur. Agis dans nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous. Même si cela fait mal, Seigneur. Te donnons la liberté d'agir dans nos vies, Seigneur. Pour ta gloire. Et pour le salut de ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Semaine, nous aurons la